On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Malaise. Une compétition sportive autorise le dopage. Un texte de Maxime Ouellette, paru le 21 juillet 2025 dans les As de l'Info. Les tout premiers Enhanced Games auront lieu en 2026 à Las Vegas aux États-Unis. La particularité de cette compétition sportive, les athlètes pourront être dopés. C'est-à-dire qu'ils pourront utiliser des substances normalement interdites pour repousser les limites du sport. Ça pose tout plein de questions sur ce qui est permis ou pas en compétition. En plus, certaines de ces substances pourraient être dangereuses pour la santé. Un célèbre Olympien, Jean-Luc Brassard, nous donne son point de vue sur ces jeux controversés. Enhanced Games, ça veut dire « jeu amélioré ». Ce que ça semble signifier, c'est que cette compétition pour athlètes dopés est supposément supérieure aux Jeux olympiques, qui seraient moins spectaculaires. Aux Enhanced Games, des athlètes s'affronteront au sprint, en natation et en haltérophilie, un sport de force dans lequel il faut soulever le plus lourd possible, entre autres. Ces Jeux, c'est l'idée du milliardaire australien Aaron Tzuzat. Selon lui, ça fait trop longtemps que le sport de compétition ne suit pas le progrès scientifique. Dans les autres compétitions, comme les Jeux olympiques, il est strictement interdit d'utiliser des drogues de performance. Les athlètes sont régulièrement testés et un tricheur peut être banni de son sport et se faire retirer ses médailles. Mais, aux Enhanced Games, les stéroïdes et les suppléments seront autorisés dans le but de garantir des performances extraordinaires. Dans une vidéo pour faire connaître ces jeux, on peut voir le nageur Christian Golomiev battre le record du monde sur le 50 mètres libre de 0,02 secondes. Il avait consommé des hormones de croissance. Quel message ça envoie? L'Agence mondiale antidopage, AMA, qui surveille les athlètes et s'assure qu'ils ne consomment pas de substances interdites, a demandé l'annulation des Enhanced Games. Selon ses spécialistes, cette compétition envoie le message qu'il est correct d'utiliser des produits risqués pour la santé. J'ai demandé à Jean-Luc Brassard, médaillé d'or en ski aux Jeux olympiques de 1994, ce qu'il en pense. Pour lui, les Enhanced Games envoient un message négatif aux jeunes athlètes. Le dopage est un raccourci qui empêche l'acquisition d'habiletés sportives obligatoires pour une progression complète, explique Jean-Luc Brassard. En gros, c'est un peu comme si tu faisais un examen mais qu'on te donnait une partie des réponses. Le manque d'apprentissage entre les deux finit toujours par réapparaître tôt ou tard, souligne Jean-Luc Brassard. Pourquoi y participer? C'est surtout une question d'argent. Au Enhanced Games, les gagnants des différentes épreuves remporteront 500 000 $ américains, 680 000 $ canadiens. Chaque participant qui brisera un record obtiendra le double, 1 million de dollars américains, ça fait 1 360 000 dollars canadiens. C'est très alléchant pour les sportifs. Il faut savoir qu'à part pour les méga-vedettes, il est dur pour les athlètes de bien gagner leur vie, même s'ils participent aux Jeux olympiques. Le nageur ukrainien Andriy Ovorov participera aux Jeux augmentés en 2026 pour cette raison. Cet athlète, qui détient le record du monde aux 50 mètres papillon, rêve de participer aux Olympiques depuis qu'il est enfant. Mais La guerre dans son pays complique beaucoup les choses. Je dois subvenir aux besoins de ma famille, a-t-il dit au journal La Presse. Il a donc décidé de faire une croix sur les Jeux olympiques et de plutôt s'inscrire aux Hanson Games, puisque c'est plus payant. Il a dit que c'était une des décisions les plus difficiles de ma vie. Et toi, qu'en penses-tu? Bonne ou mauvaise idée, c'est Hanson Games qui autorise le dopage? Pourquoi les partisans de Trump se sentent trahis? Un texte de Camille Lopez, paru le 21 juillet 2025 dans les As de l'Info. D'habitude, les partisans de Donald Trump ne le critiquent pas en public. Mais ces temps-ci, ils ont l'impression que le président des États-Unis leur cache des secrets très graves, et ils se sentent trahis. Voici ce qui se passe. Un peu de contexte. Un nom à retenir dans cette histoire, Jeffrey Epstein. Il était un riche homme d'affaires américain et fréquentait des gens très puissants comme des présidents des États-Unis, incluant Bill Clinton et Donald Trump, et des membres de la royauté anglaise. Il a été arrêté en 2019 et accusé d'avoir commis des crimes sexuels très graves sur des adolescentes pendant plusieurs années. Mais alors qu'il attendait son procès en prison, M. Epstein s'est suicidé. Résultat, le procès n'a pas eu lieu, les preuves n'ont pas été dévoilées. C'est comme s'il avait emporté ses secrets avec lui. Beaucoup de théories du complot. Beaucoup d'Américains sont convaincus que le FBI leur cache la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Ils s'imaginent que c'est parce que des politiciens et des vedettes participaient au crime. Selon eux, leur nom se trouverait sur une liste secrète. Il n'existe toutefois aucune preuve de l'existence d'une telle liste. Et Trump ? Depuis 2019, énormément de partisans et de proches alliés de Donald Trump exigent que le mystère soit levé sur l'affaire Jeffrey Epstein. En 2024, le président américain a promis qu'il rendra public les documents entourant cette histoire, incluant cette fameuse liste. Les électeurs de Trump attendaient avec impatience qu'il publie ces documents. Trahison. La semaine dernière, le FBI et le département de la justice américaine ont déclaré que rien ne prouve l'implication d'autres personnes et qu'aucun document lié à l'affaire Epstein ne sera rendu public. Les partisans de Donald Trump étaient très fâchés. Mais à la surprise générale, Donald Trump n'a pas forcé la justice à diffuser les documents. À la place, il a écrit « Ne perdons pas notre temps et notre énergie sur Jeffrey Epstein, quelqu'un dont personne ne se soucie. » Quelle volte-face! Donald Trump a aussi écrit que l'affaire Epstein était une supercherie, et il a insulté ses partisans, qui insistent pour connaître la vérité en les traitant de faibles et leur disant qu'ils ne voulaient plus de leur soutien. Ça n'a pas passé. Des amis qui critiquent. Plusieurs alliés de Donald Trump l'ont ouvertement critiqué pour avoir renié sa promesse. La politicienne républicaine Marjorie Taylor Greene, qui adore pourtant le président américain, essaie de trouver un moyen de forcer la publication de ses documents. Même l'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, a critiqué l'inaction de l'administration. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs pro-Trump ont partagé leur colère. « Personne ne vous croit », a écrit l'un d'eux. « C'est révoltant », a publié un autre. « On s'est tous fait dire qu'on aurait des réponses », reproche un autre. Elon Musk, son ancien ami devenu ennemi, a dit il y a quelques semaines que Trump se trouvait sur la liste. Alors maintenant, certains se demandent si Donald Trump garde les documents secrets parce qu'il a des choses à cacher. On dirait bien que la pression est trop forte. Selon des médias américains, Trump tenterait de trouver un compromis en demandant à la justice de publier quelques documents, mais pas tous. Quel impact? Cette histoire fait beaucoup jaser. Pas seulement parce que l'affaire Epstein est scandaleuse, mais aussi parce que, pour la première fois, des partisans de Trump se détournent de lui et le critiquent haut et fort. Est-ce que c'est assez pour ébranler sa popularité? C'est à suivre. Et toi, as-tu déjà été déçu parce qu'un ami ou un membre de ta famille n'a pas tenu sa promesse? Septième arrêt, le Manitoba. Un texte de Lisbeth Cerné, paru le 20 juillet 2025 dans les As de l'Info. Lisbeth Cerné est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. Mon chemin se poursuit dans les prairies canadiennes. Je me suis d'abord rendu à la capitale de la province du Manitoba, Winnipeg, pour visiter l'école du Précieux Sang. C'est le ministre de l'école, Xavier, accompagné de la vice-première ministre, Amina, qui m'ont fait visiter. Ils ont respectivement 13 et 14 ans et sont en 8e et dernière année. En marchant dans les couloirs, on s'arrête à la salle polyvalente. Les élèves de 8e année y organisent régulièrement une activité spéciale, me dit Xavier. Chaque 2 semaines, on commande de la pizza. Les élèves commandent ce qu'ils veulent et nous, on leur donne. Nous continuons la visite dans un des locaux de musique. L'école a 2 programmes de musique, me disent-ils. Xavier et Amina me présentent leur instrument. Xavier joue de la clarinette basse. Il est le seul à avoir choisi cet instrument. Amina, de son côté, joue de la trompette. Xavier et Amina me disent que leur endroit préféré dans la ville s'appelle la Fourche. C'est un lieu qui fait partie de Parc Canada et c'est un incontournable lorsqu'on vient à Winnipeg. Amina me dit qu'il y a des restaurants un peu partout, des magasins, et vous pouvez partir dans les bateaux pour une tournée, et c'est vraiment beau. Une fois là-bas, je n'ai pas choisi d'aller sur l'eau, mais plutôt d'aller manger. En effet, on retrouve à la Fourche du poisson, des pâtisseries et toutes sortes de cuisines du monde. Savais-tu que Winnipeg tire son nom du cri une langue des Premières Nations? Winnipeg signifie « eau trouble » ou « eau boueuse ». Direction la base militaire Silo. Mon aventure au Manitoba a continué à la base des forces canadiennes Silo. Une base militaire, c'est un endroit où les forces armées s'installent pour s'entraîner, vivre ou se préparer à des missions. C'est un peu comme un quartier général pour les soldats. Souvent, les familles des soldats vivent aussi là. C'est pourquoi il y a des écoles dans plusieurs bases militaires. Je me suis donc rendu à l'école La Source pour rencontrer Lily Anne de Carufull et Charlotte White. Elles ont 11 ans et elles sont en 6e année. Charlotte aime les mathématiques. Je pense que c'est comme un défi. De son côté, Lily-Anne préfère les sciences. Charlotte habite depuis toujours sur la base militaire. Lorsqu'il fait beau, cela ne lui prend que quelques minutes à vélo pour se rendre à l'école. Elle se considère chanceuse parce qu'elle est dans la même école depuis qu'elle est toute petite. Puisque son papa est militaire, il pourrait être envoyé ailleurs à tout moment. Cela voudrait dire qu'elle déménagerait. Elle a vu certains de ses camarades partir. « Tu peux te faire un ami et 2 années plus tard, il déménage », me dit-elle. Puisqu'il s'agit de la seule école francophone des environs, tous les élèves ne vivent pas sur la base. Certains viennent des villes voisines comme Liliane. Sur l'heure du dîner, leur classe joue au soccer, un sport qu'elles aiment beaucoup. D'ailleurs, elles ont voulu que j'aille visiter le terrain de soccer de la ville de Brandon. C'est dans cette ville, située à 35 kilomètres de Silo, que la plupart des familles vont pour faire des activités ou faire les courses. Je suis allé voir si le gazon était vert. La semaine prochaine, Lisberthe nous fait visiter la Saskatchewan. Les chauves-souris manitobaines sont en danger. Un texte de Clémence Tessier, paru le 18 juillet 2025 dans les As de l'Info. Quand on pense aux chauves-souris, on imagine parfois des créatures d'Halloween ou des vampires qui volent dans la nuit. Mais savais-tu que les chauves-souris sont très utiles pour la nature et pour les humains? Malheureusement, plusieurs espèces sont en danger. Pourquoi? C'est la question que j'ai posée à Craig Willis, un scientifique manitobain qui étudie les chauves-souris à l'Université de Winnipeg. Une maladie qui les réveille trop tôt. Pour Craig Willis, les chauves-souris sont des animaux fascinants. Elles mangent des milliers d'insectes chaque année, ce qui aide les agriculteurs à protéger leurs cultures sans utiliser trop de produits chimiques, m'a-t-il expliqué. Mais aujourd'hui, deux grandes menaces mettent leur survie en danger. Depuis quelques années, une maladie appelée le syndrome du museau blanc touche plusieurs chauves-souris. Elle provient d'un champignon qui attaque leur peau pendant qu'elles hibernent. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle tire les chauves-souris de leur hibernation trop tôt. Une fois réveillées, elles sortent pour chercher de la nourriture, mais il n'y en a pas encore. Résultat, elles peuvent mourir de froid ou de faim. On a perdu 80% de nos petites chauves-souris brunes au Manitoba, explique Craig Willis. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de remède pour les chauves-souris atteintes du syndrome du museau blanc. Une bonne chose pour la planète, mais pas pour les chauves-souris. L'autre danger pour les chauves-souris, ce sont les éoliennes. Chaque automne, certaines espèces de chauves-souris migrent vers le sud. Et pendant leur voyage, elles croisent des éoliennes. Elles sont attirées par ces structures très hautes parce qu'elles cherchent un endroit pour s'accoupler avant l'hiver, explique Craig Willis. Il arrive alors que des chauves-souris se cognent contre les pales des éoliennes et certaines ne survivent pas. D'autres fois, elles meurent à cause d'un phénomène appelé le barotraumatisme. Barreau quoi? C'est un mot compliqué qui veut dire que la pression de l'air change trop vite autour d'elles, ce qui abîme leurs poumons très fragiles. Une solution. Il existe pourtant une façon simple de protéger les chauves-souris des éoliennes. La majorité des morts liées aux éoliennes ont lieu la nuit, entre août et octobre, quand les vents sont faibles et que les turbines ne tournent pas rapidement. Si on demandait aux compagnies d'élever légèrement la vitesse minimale à laquelle une turbine commence à tourner, on pourrait sauver des milliers de chauves-souris chaque année, explique le scientifique. En Alberta, cette règle existe déjà, mais pas encore au Manitoba. Craig Willis espère que la situation changera rapidement pour protéger les chauves-souris du Manitoba. Toi, as-tu déjà vu une chauve-souris? Si oui, où? Coupe dans les écoles. Le gouvernement recule. Un texte de Camille Lopez, paru le 16 juillet 2025 dans les As de l'Info. Mercredi 16 juillet. le gouvernement du Québec a annoncé qu'il donnera 540 millions de dollars aux écoles. L'argent devra être utilisé pour aider les élèves directement. C'est une surprise, puisqu'il a récemment dit aux écoles de couper dans leurs dépenses. Voici ce qu'on sait. Une décision critiquée. En juin, le gouvernement du Québec a décidé que les centres de services scolaires, CSS, devront réduire leurs dépenses de 570 millions de dollars lors de la prochaine année scolaire. Des milliers de Québécois ont dénoncé ces coupes lors de manifestations en signant des pétitions et en envoyant des lettres aux politiciens. Parents, profs et autres employés du milieu de l'éducation s'inquiétaient pour les élèves qui ont besoin de services particuliers comme l'accompagnement d'un spécialiste, du tutorat ou de l'aide aux devoirs. Selon eux, sans cet argent, ils ne pourraient probablement plus profiter de cette aide. Volte-face. On dirait bien que les critiques ont atteint leur cible. Mercredi, le gouvernement est revenu sur sa décision. On a entendu les préoccupations et les besoins. « Aujourd'hui, on agit pour nos élèves », a déclaré le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, dans un communiqué. Donc, un montant de 540 millions de dollars sera versé au CSS sous certaines conditions comme « L'argent peut seulement être dépensé dans les services aux élèves ». Les CSS devront prouver qu'ils ont diminué d'autres types de dépenses. Les CSS auront aussi l'autorisation d'embaucher plus d'employés pour aider leurs élèves. C'est une nouvelle qui risque de faire plusieurs heureux. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. Un texte de Marie Bernier, paru le 22 juillet 2025 dans les As de l'Info. Lundi, 25 pays, dont le Canada, ont publié le même message. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. Cet appel survient alors que la population de Gaza subit depuis 21 mois les violences de la guerre avec Israël. Voici les dernières nouvelles. Chercher de la nourriture au péril de sa vie. Dans leur lettre commune, les 25 pays affirment que les souffrances de la population de Gaza ont atteint de nouveaux sommets. Ça signifie que la situation empire. C'est parce qu'après presque 2 ans de guerre, la population à Gaza est affamée. Le printemps dernier, Israël a empêché pendant 2 mois toute aide humanitaire de pénétrer sur le territoire. Ça veut dire que la population de Gaza n'a pas reçu d'eau, de nourriture et de médicaments venant de l'extérieur pendant 2 mois. Au mois de mai, avec l'accord d'Israël, un organisme appelé Fondation humanitaire de Gaza a commencé à distribuer de la nourriture à la population. Ça aurait pu être une bonne nouvelle. Malheureusement, ces distributions virent régulièrement au drame. L'ONU estime que plus de 875 personnes ont été tuées en essayant de recevoir de quoi manger depuis l'arrivée de la Fondation. Du côté israélien, on dit qu'il s'agit d'accidents provoqués par le chaos de la foule. Mais du côté palestinien, on dit que les soldats israéliens tirent parfois volontairement sur la population. Des enfants font aussi partie des victimes, malheureusement. Dans leur message, les 25 pays dénoncent le mode de fonctionnement dangereux de l'aide humanitaire israélienne qui prive les habitants de leur dignité. Ils exigent que ces morts cessent et que l'aide soit apportée en plus grande quantité. Cessez-le-feu demandé. Les 25 pays demandent qu'un cessez-le-feu ait lieu. Comme son nom l'indique, un cessez-le-feu signifie l'arrêt des combats. Les 25 pays croient qu'un cessez-le-feu offre aussi le meilleur espoir de ramener les otages israéliens chez eux. Il s'agit de personnes qui ont été enlevées en Israël le 7 octobre 2023 et emmenées de force dans la bande de Gaza. Ce jour a marqué le début de cette guerre. Des dizaines d'otages ont été libérés depuis, mais d'autres sont morts et un petit nombre serait encore captif. Des négociations ont lieu pour arriver à un cessez-le-feu, mais selon les dernières informations, il n'y a pas encore d'accord en vue. La réaction d'Israël. Plus tard lundi, Israël a fait savoir qu'il rejetait la déclaration des 25 pays. Israël dit que le message du groupe est déconnecté de ce qui se passe réellement sur le terrain. Il ajoute que c'est la faute du Hamas, le groupe palestinien qui a attaqué Israël le 7 octobre, s'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Selon Israël, seul le Hamas est responsable de la poursuite de la guerre et des souffrances. Le même jour, l'armée israélienne a lancé une attaque dans le centre de la bande de Gaza. Un mot des As. La situation à Gaza est très difficile et tu ressens peut-être de l'impuissance en entendant ce texte. C'est normal. C'est un sentiment que nous partageons aussi. C'est très frustrant de savoir que des gens souffrent et d'être incapables de changer les choses. Mais ce que nous pouvons faire, c'est continuer à nous informer et poser des questions sur ce qui se passe. C'est aussi correct de prendre des pauses de mauvaises nouvelles de temps en temps pour se protéger. L'important, c'est de ne pas oublier les victimes. Ce que tu peux aussi faire à ton niveau, c'est tourner le dos à la violence. Chaque fois que c'est possible, tu peux choisir la paix dans tes relations avec les autres. Pour nous faire du bien, peux-tu nous raconter un moment où tu as choisi la paix récemment?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.